Cours de métaphysique par le Père Marie-Dominique Philippe Saint-Jeudard, le 3-10-90.
Selon l'ordre de dignité, nous commençons par la philosophie première. Mais la théologie naturelle a une dignité encore plus grande. Sous un certain aspect, que nous verrons dans l'introduction de la théologie naturelle. Alors, je vais regarder, si vous voulez, grandeur et déclin de la philosophie première, comme introduction, n'est-ce pas ? Un peu Pascal pour introduire, n'est-ce pas ? De la naissance de la philosophie première. Comment elle est née ? On pourrait faire un dialogue de Platon. Je vous en donne le thème et réalisez ça. De la naissance de la philosophie première. Comment elle est née? Elle est née en Grèce et à Athènes. C'est le privilège d'Athènes. Il a fallu des circonstances particulières pour qu'elle naisse. Pensez au banquet de Platon qui voit la naissance de l'amour. Il a fallu des circonstances particulières pour cette naissance. Qu'Athènes connaisse certaines euphories, certaines bien-être. Qu'elle soit préparée par Socrate et Platon. Je ne dis pas que c'est la mère et le père, mais on pourrait presque le dire, puisque pour Socrate, le philosophe est une sage-femme. Donc il est bien la mère de tous les philosophes, Socrate. Il est très maternel, Socrate. Très, très bon. Tandis que Platon, aussi, il est maternel. Mais pas tout à fait de la même façon. Il ne devait pas du tout avoir la même humeur. Platon, vieil aristocrate, des oncles qui étaient au gouvernement, et un aïeul qui était empereur. Socrate, Platon a eu toujours un rêve, un grand rêve, qui n'a jamais pu se réaliser, parce que c'est un rêve. Le philosophe croit. C'est ça qu'il aurait voulu. Il avait la vocation à être philosophe roi. Il a lié les deux. Et pour cela, il a regardé avec beaucoup d'attention la dignité de l'âme humaine. Toute la philosophie de Platon, je crois qu'on pourrait la centrer, la polariser sur l'âme. Ce serait une très belle manière de comprendre Platon dans sa dignité. C'est le philosophe de l'âme. Influencé, évidemment, beaucoup par Socrate, sa mère en philosophie. Puisque Socrate a eu ce privilège de mettre naissance à Platon. Il a eu Platon comme élève pendant 8 ans, un bon noviciat. Politique. Il a été converti par Socrate à la philosophie. Socrate exerçait une terrible séduction, très bonne, sur les jeunes, sur les aristoi, toute la jeunesse noble d'Athènes. Il les attirait. Il les attirait pour leur montrer que l'homme croit se connaître et ne se connaît pas. C'est très intéressant parce que je crois qu'il pourrait y avoir des Socrates dans notre monde d'aujourd'hui. Dans tous les pays. Parce que on vit quelque chose un peu d'analogue. à l'Athènes de cette époque. Il y avait les sophistes. Les sophistes, c'était des gens qui apprenaient les jeunes au pouvoir, à acquérir le pouvoir, à séduire les gens par la rhétorique. C'est des rhéteurs, les sophistes. Et il y a une mode aujourd'hui, hein, de remettre les sophistes très en vogue. Au fond, le sophiste, il essaie de persuader, pas du tout la vérité, persuader, créer la sincérité. Pour les élections, c'est très important. Je ne cherche pas la vérité, mais la sincérité. Qu'on dise que c'est ce programme qui est le meilleur pour qu'on vote pour. Et Socrate, face aux sophistes, Socrate n'a rien écrit. C'est sa béatitude. Il n'a rien écrit. Et on pense qu'il y a comme trois époques dans Socrate. Parce que de fait, il y a des miroirs différents sur Socrate. Au début, Socrate a dû être lui-même un peu séduit par les sophistes. Il y a le Socrate sophiste, l'Aristophane. Il y a le Socrate qui se convertit, qui devient militaire, capitaine. C'est le Socrate de Xénophon. Et puis il y a le Socrate philosophe à la fin de sa vie. C'est le Socrate de Platon. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait ces trois aspects-là. Qu'il ait été séduit. Qu'il ait été pris. La manière dont il parle des sophistes est tellement forte et violente qu'on sent quelqu'un a senti la séduction du sophiste. Et il a maintenu la rhétorique à sa place. Considérant que la rhétorique est très importante, mais qu'elle n'est pas la sagesse, qu'elle est un art pour la politique, pour la persuasion. Ce qui est sûr, c'est que le Socrate dont nous parlons habituellement, notre grand-père ou notre arrière-grand-père, si vous voulez, bisaïeul, on tient de Socrate. On tient de Socrate, ça c'est évident. Et il faut dire comme Aristote, on est plus proche de Socrate que Platon. Parce que Socrate a comme méthode l'interrogation. Socrate interroge. Et c'est merveilleux pour obliger les gens d'aller plus loin. Ah, tu dis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Faites pas trop sans récréation, hein, parce que vous agaceriez vos frères. Ah, tu as dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, poussez, 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 poussez. Jusqu'au moment où il dit, je sais pas. Ah, et tu dis ça, cependant. Tu fais semblant de croire. Normalement, quand vous parlez, vous savez ce que vous dites. Il y a un seul endroit où vous avez le droit de dire des mots dont vous ne comprenez pas le sens, à l'examen. C'est le seul moment où vous avez le droit. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous voyez si l'examinateur est intelligent. Et c'est lui qui doit faire la maillot, interroger pour voir si vous savez vraiment. Vous avez le droit à ce moment-là. Autrement, non. Fraternellement, on n'emploie jamais des mots dont on ne sait pas le sens. Et encore plus quand on fait des conférences, quand on fait un cours. Parce que on abuse de la foi de ceux qui écoutent. C'est la discipline de Socrate. Il interroge pour obliger les gens d'être vrais dans leur langage et d'employer un langage exact. Parce que le rhéteur, ça lui est bien égal. Le tout, c'est de séduire. Le tout, c'est de persuader. Alors plus on emploiera de mots extraordinaires, invraisemblables, plus les gens seront séduits. Et à ce moment-là, on pourra les mettre là où on veut. Très très intéressant, hein, la physionomie de Socrate. C'est très important. On doit aimer Socrate. comme celui qui, en pleine décadence de la pensée, est arrivé à relever. Il a donné le coup, comme dirait Heidegger, il a touché le fond pour revenir à la surface. Parce que c'était une décadence complète. Il faut dire qu'avant Socrate, ce qu'on appelle les pré-socratiques, de fait, on n'a plus beaucoup de documents. On n'a que des fragments, donc il n'y a pas grand-chose. Mais on sent très bien que c'est une pensée qui reste encore très embryonnaire, très poétique, très symbolique. Or, Socrate voit comment cette philosophie a sombré avec les sophistes, qui montrent que pratiquement, il n'y a pas de vérité. Ils sont sceptiques. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une vérité subjective, la sincérité, pour persuader. Il faut être sincère pour persuader. C'est la seule chose qu'il faut. Et on sent très bien ça chez les sophistes. Alors, il y a toute espèce de sophistes. On va faire un cours sur les sophistes. Mais il y a chez les sophistes des athées, ceux qui suppriment le point de vue des dieux. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que cette réaction, vous voyez, de Socrate, c'est de reprendre la tradition religieuse dans toute sa force en la purifiant. L'inspiration de Socrate, c'est « connais-toi toi-même ». Et en même temps, de respecter les dieux. Parce que se connaître soi-même, c'est retrouver la source première par où il y a en nous un appel vers quelque chose qui est plus grand que nous. Socrate a très bien senti ça. Connaître soi-même, c'est pas du tout s'enfermer en soi et se gargariser de ses idées ou de ses projets. Se connaître, c'est découvrir quelque chose qui va plus loin que nous. Platon, 8-9 ans à l'école de Socrate, il a quitté son ambition politique pour se mettre à l'école de Socrate. Il s'est mis à l'école de Socrate. C'est pour ça qu'on dit que les premiers dialogues de Platon sont socratiques. Parce qu'on croit, c'est comme un peu le reflet passé par Platon. Donc c'est sûrement pas ce que disait Socrate. Mais c'est quand même un peu l'atmosphère qu'il a su capter. Parce que Platon est très poète. C'est un philosophe poète, Platon. Socrate devait être beaucoup plus de la catégorie du saint, S-I-N-T, un saint dans le respect de sa dite de la foi qu'il mène. C'est ce que toujours Platon nomme. Il y a chez Socrate quelque chose de mystique, une voix intérieure qu'il dépasse. Il veut être fidèle à cette voix. Il sera fidèle jusqu'au bout. Il boira la ciguë pour être fidèle. Donc il considère que sa vie n'a de sens que par rapport à la fidélité de cette voix. Platon, il est génial comme poète-philosophe. Qu'est-ce qui est le mot de pas? Qu'est-ce qui est l'intuition dominante de Platon? Je vous ai dit, l'âme immortelle, contemplative, c'est ça qui est son intuition. C'est l'âme immortelle, contemplative, qui est dans le corps. Elle n'est pas à l'aise dans le corps. Elle est dans le corps. Alors il expliquera ensuite, par punition, elle n'est pas à l'aise. Vous voyez, il la saisit très très fort. Et c'est ça le drame de Platon. La dualité de l'homme. L'aspect spirituel. L'intériorité. Qu'est-ce plomb? Point d'interrogation. Il y a le jeune Aristote qui est là. Tiens, c'est écrit, le jeune Aristote est là. Alors évidemment, c'est pas l'Aristote qu'on parle selon l'habitude, j'en sais rien. Au ciel, on verra. Ça m'intéressera. Attends, si c'est le jeune Aristote. Ça m'étonnerait pas du tout. Je crois qu'Aristote a été pour Platon à la fois celui qu'il a aimé énormément, le liseur, le travailleur, selon la tradition. C'est comme ça que Platon l'a regardé. L'étudiant intelligent qui risquait de le dépasser et d'aller plus loin que lui. Alors, il y a à la fois, vous voyez, une très grande admiration. Et en même temps, est-ce qu'Aristote va tout démolir? Il y a un très gros problème, parce que le successeur de Platon, c'est pas Aristote. Alors on dira que c'est le contexte. Oui. Il y a peut-être aussi autre chose. C'est toujours très intéressant de voir le maître et le disciple dans leur amitié. Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Platon, Aristote. Il y aurait un parallélisme intéressant à faire, parce qu'on comprendrait peut-être mieux ce que représente l'amitié transformée par la grâce. C'est très très curieux, hein. C'est très intéressant à voir ça, comme illustration. Ce qui est sûr, c'est que Aristote, qui a été élève de Platon pendant 20 ans, 20 ans, ça c'est le sens du maître chez les Grecs. Quand on a trouvé un maître, on s'y tient, parce qu'il a de l'avance sur nous. Peut-être autrement. Il a quelques années avant nous. Alors on s'y tient, et on veut aller jusqu'au bout. Et Aristote a été jusqu'au bout. Il n'a pas quitté Platon parce qu'il ne s'entendait pas entièrement avec lui, parce qu'il avait d'autres idées. Non, pas du tout. Il a mûri sa recherche auprès de Platon. Et à ce point de vue-là, ça montre le génie d'Aristote. Si Aristote n'avait pas été si profond, il aurait quitté Platon bien avant pour faire original. Or, c'est pas ce qu'Aristote cherche. Il cherche la vérité. Et il le dit avec force, cette parole qui exprime, je crois, profondément la philosophie d'Aristote. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. La vérité passe avant. Ça passe avant Platon. Platon n'a jamais dit ça comme ça. Je crois que Platon aime plus ses intuitions, autrement dit, une sincérité intellectuelle qui va très loin. La vérité. Je crois qu'il n'a jamais saisi ce qu'est la vérité au sens fort. Oui, c'est un petit peu, vous voyez, ceux qui ont connu Claudel, c'est un peu comme ça. Claudel a des aspects métaphysiques de temps en temps. Très grand, très beau, c'est un poète. La vérité au sens très très fort. Conforme à la réalité. Un poète, c'est la sincérité à l'égard de ses idées. C'est la sincérité à l'égard de son inspiration. C'est ça. Et chez Platon, il y a ça. Il y a une inspiration folle. Très, très grande. C'est un des grands génies de l'humanité, Platon. J'allais dire, chaque dialogue représente quelque chose de génial. Mais, au plan philosophique, il n'a jamais été jusqu'au bout d'une recherche de la vérité. Son intuition, son inspiration reste toujours quelque chose d'ultime. C'est très beau. C'est la beauté qui reste, la beauté des idées. C'est pas n'importe quelle beauté, c'est la beauté des idées. C'est la beauté de l'âme qu'il cherche à contempler. Ce n'est pas la contemplation, mais c'est la beauté de la contemplation. C'est ça qui est le plus étonnant chez lui. Et ça, c'est très grand. Ça le prépare, Aristote. Je crois que providentiellement, on peut dire ça. Socrate, Platon, Aristote. Platon parle de la philosophie qu'il identifie à sa dialectique, qui n'est pas celle de Hegel. À sa dialectique. La dialectique chez Platon, elle est engendrée à l'intérieur de l'ordre qui existe entre les idées. C'est la relation entre les idées. Et la philosophie, c'est la connaissance des idées. Au-delà du sensible, au-delà des mathématiques, c'est la connaissance des idées et donc de la contemplation. C'est l'âme immortelle. Et qui, pour contempler, doit passer à travers cette dialectique ascendante, descendante. Ascendante pour toucher la beauté en soi, qui s'identifie au bien en soi. Phèdre, Platon, le banquet. Et une fois qu'on a atteint ce sommet, on peut tout juger, tout regarder. Le sage, il peut gouverner. C'est pour ça que la sagesse chez Platon n'aboutit jamais à une sagesse totalement désintéressée. Je veux dire, la contemplation n'est jamais totalement désintéressée. Elle est en vue de la politique. Alors, attention, en vue. Elle permet la politique. Parce que la politique elle-même est ordonnée à la contemplation. Elle permet la politique. D'une façon nécessaire. Le sage doit retourner auprès de ceux qui sont dans l'opinion et qui sont aveugles. C'est le mythe de la caverne à l'intérieur de la République qui nous montre ça admirablement. D'une façon très très belle, très grande. C'est grand, le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne joue un rôle très très important pour quelqu'un comme Heidegger. Le mythe de la caverne, c'est le lieu de passage d'une philosophie encore très réaliste à une philosophie qui va laisser comme un primat de l'idée. Très, très curieux. C'est une interprétation heideggerienne. Je n'irai pas jusque-là. Je dirais que c'est tout simplement le mythe de la caverne exprime ce qui, pour Platon, à cette époque, était vraiment sa contemplation. Le sage sortait de la caverne. Vous voyez, dans la caverne, on voit que des ombres. On voit que des ombres. Parce que vous êtes des ombres. Si je vous regarde, vous êtes des ombres. Si je vous regarde en tant que philosophe, oh, je vois la réalité. Je vois votre âme spirituelle. Et voyant votre âme spirituelle, je vois que votre physionomie, oui, c'est grimaçant, à côté de votre âme spirituelle. Et comme vous jugez toujours sur les apparences, on va vous faire sortir de la caverne pour découvrir la vérité. Et la vérité, elle est au-delà du sensible. Et elle ne peut être qu'au-delà du sensible. Elle est dans cette contemplation des idées. Et de l'idée première, qui est le bien en soi, le beau en soi. Et quand Platon se met alors à avoir en face de lui des objections, il va reprendre tout le point de vue de la dialectique de Parménide. C'est très curieux de voir les conversions de Platon. Parce que ça fait partie de son système, si vous voulez. Il y a trois philosophies chez Platon. Il y en a trois. La première, disciple disciple de Socrate. Il y a une philosophie disciple de Socrate, qui est Platon moral, Platon des définitions morales. Il y a le Platon qui ouvre tout grand ses ailes, l'aigle, il ouvre tout grand ses ailes. Alors le Platon de la République qui lui manquait. Et puis après le Platon, qui va prendre une attitude plus critique, qui va être plus attentif à l'induction. Il commence à l'expérience. Au lien entre l'âme et le corps. Et alors on verra la correction de la République dans les lois. Et si on fait le parallélisme des lois et de la République, on voit très bien ces deux Platons. À la mort de Platon, ce n'est pas Aristote qui va continuer. Aristote sera obligé de partir. Ça montre sa vénération et son amour pour Platon. C'est à cause de l'amitié qu'il a avec Platon qu'il est resté. À cause du respect qu'il a de lui. Mais dès que Platon disparaît, alors, l'Académie, ce que Platon a fondé, ne l'intéresse plus. Il n'y a plus d'âme. Platon n'est plus là. Il s'en va à Assos. Et là, il va commencer sa philosophie. Avant, ce sont des dialogues qui sont du reste perdus. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais Aristote n'a parlé d'idées comme point de départ de sa philosophie. Le point de départ de la philosophie, chez Aristote, c'est l'expérience et l'expérience interne. Vous avez donc trois points de départ de la philosophie. Socrate, aristate n'a pas marché entièrement. Pourquoi? Platon a manqué d'expérience. Le jugement qui donne. Platon a manqué d'expérience. Et Aristote revient à l'expérience externe en premier lieu, sans du tout rejeter l'expérience interne. Aristote va être le premier à découvrir que le développement progressif de la philosophie, qui est la recherche de la vérité, aboutit à la vérité dans ce cas-là. L'intelligence est capable d'atteindre ce qui est, ce qui existe comme tel. Le philosophe ne s'intéresse pas aux réalités possibles. Y a-t-il des habitants dans Mars? Il s'intéresse à ce qui est. Et ce qui est implique un certain ordre. Il y a des réalités matérielles, il y a des vivants, et il y a des vivants de vie intellectuelle. Et parmi les vivants de vie intellectuelle, il y en a un premier, qui est Dieu, celui qu'on appelle Dieu. Vous voyez la gradation d'Aristote dans le réel. C'est facile à comprendre. Ce réel, la réalité qu'on expérimente, qu'on peut toucher, c'est la réalité qui est mue, ce qui est mu. Ce qui se meut. Dans ces réalités qui sont au-delà de la matière, ce qui est mu est lié à la matière. Ce qui est, ce qui juge, ce qui contemple est au-delà de la matière. C'est méta, au-delà, au-delà du physique. C'est pour ça qu'on l'appelait métaphysique. Ce qui est au-delà du physique. Mais Aristote n'a jamais appelé sa philosophie première. Métaphysique. Il appelle philosophie première. Alors, cette philosophie première, pour lui, est nécessaire. Pourquoi? Parce que le philosophe cherche la vérité. Et s'il cherche la vérité, il doit la découvrir à l'égard de la réalité. Ce qu'est l'être premier.